radio foot international avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International.
Olivier Prou.
À toutes et à tous, on ne se lasse pas de ce God Save the Queen revisité par les Sex Pistols. Bienvenue dans Radio Foot International. Et si on parlait un peu, juste un peu, Ligue des Champions, quel match, quel demi-retour, nous a offert cette semaine. La Ligue des Champions nous a offert cette reine des compétitions de club, de remontada venue de nulle part, qui font de ce football un pourvoyeur d'émotions uniques, un accélérateur de battements de cœur, un sport à faire crier heureuses et déçues aux quatre coins de la planète. Des Reds montada à la Lucas Mouratada, nous allons faire le bilan de ces deux matchs de déglingo avec notamment un gars qu'on déteste. Oui, Habib Bey, aujourd'hui on vous déteste et vous savez pourquoi ?
Ouais, je crois savoir pourquoi.
Parce que vous y étiez, parce que vous avez enchaîné Anfield et la Cruyff Arena, parce que vous avez vu Klopp enlacer ses joueurs et chanter, puis Pochettino s'agenouiller et pleurer. Mais en même temps, on compte bien profiter de tout ça. Bonjour à vous.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour à vous aussi Dominique Sévrac, vous qui suivez le Paris Saint-Germain depuis tant d'années et qui en 4 ans n'aviez jamais vu Lucas aussi bien jouer.
C'est ça, et j'envie à Habib Bey d'avoir vécu ça, en vrai notamment Anfield, c'est incroyable.
On l'envie tous. Bref, tant de questions à se poser. Cette finale, qu'est-ce qu'elle va donner? La 7e entre deux clubs d'un même pays depuis 2000. Et cette Ligue des Champions est-elle la plus belle pour aller danser depuis tant d'années? Et ses entraîneurs, Carlos Bianchi, Klopp, Pochettino, Ten Hag, sont-ils cette nouvelle génération qui va mettre au placard les anciens Ancelotti et compagnie? Bonjour Carlos.
Si tu gagnes, oui. Si tu gagnes pas, tu n'es pas prêt.
Ainsi va le football. Et puis parce qu'il faut bien redescendre sur terre, se contenter parfois de son pain quotidien, nous reviendrons à la Ligue 1. Oui, c'est dur, mais il le faut bien. Ce vendredi, Saint-Étienne-Montpellier pour lancer le sprint final vers une 3e place que se disputent Vert et Gand, Stéphanois et Lyonnais. Et si, à l'image de Liverpool, l'ASSE retrouvait son lustre d'antan, celui des 70s, en se qualifiant pour la première fois depuis 1980-82 pour la Ligue des Champions. Allez, fini de niaiser, la dame rentre demain, je le dis au passage, ne vous inquiétez plus. Messieurs Finzel et Guérin sont postés, messieurs Salerno et Brockway, envoyez le bousin, mettez le brin. It's a kind of magic.
It's a kind of magic. Attention, c'est pas son retrait. Allez, qui récupère le ballon, Anderson, là, sur la réparation, Anderson, une fois, deux fois.
Il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Et oui, Lucas.
Quel contre.
Il y a Alexander Arnold qui s'est bien repris là sur ce ballon perdu. Il a gratté dans les pieds de Jordi Alba. Le centre, la frappe.
Oui.
Ça revient encore sur Lucas.
Oh, il l'a mis.
C'est fou.
C'est dingue.
Incroyable. Lucas.
Oh là là. Attention, on joue rapidement.
Oh.
Origi. Le corner rapidement joué.
Les dernières secondes. Le ballon de Sissoko vers Llorente. C'est maintenant ou jamais Tottenham. Dele Alli vers Lucas.
Non. C'est pas possible.
Oh, Lucas.
C'est pas vrai.
Bon, autant vous le dire tout de suite, le seul à qui les Sex Pistols, puis, eh bien, Queen ne parle pas, c'est bien sûr Carlos Bianchi. Ça renvoie pourtant, Carlos, vous dansez pas ?
Moi, pas tellement. Mais je suis allé voir le film.
Ah oui, Bohemian Rhapsody.
Ouais.
Quelle semaine, les amis. Et on veut nous la réformer, cette Ligue des Champions. Tiens, je vous livre cette phrase extraite de l'édito ce matin de notre confrère Vincent Duluc dans l'équipe. Puisque cette Ligue des Champions est insurpassable, écrit-il, il faut la laisser en l'état, ne plus la toucher ni la retoucher. Elle brille toute seule, n'a besoin de rien, alors que les lobbyistes au gros doigt ne se mêlent plus du joyau.
Le papier est magnifique. L'écriture est somptueuse, on le sait, de Vincent Duluc, mais c'est surtout tellement vrai. De ce qu'on a vécu, en fait, c'est voilà, de ce qui s'est passé cette saison et de ce qui s'est passé mardi et mercredi. Je pense que ceux qui ont envie de la changer doivent se dire, bon, on avait peut-être trop d'ambition parce qu'elle est parfaite comme elle est.
Carlos, votre avis là-dessus, vous trouvez, vous êtes pour les réformes, il faut changer tout ça ou
non,
c'est tellement bien
non,
comme
ça. Non, je suis pas.
Ça a déjà tellement changé depuis votre époque.
Non, oui, beaucoup, mais c'est bien, c'est changé parce qu'il y a la télévision, il y a la publicité, il y a des clubs beaucoup plus puissants. Mais non, pourquoi changer? Parce que même si personne ne s'attendait à ce qu'il arrivait mardi, mercredi.
Ça, c'est
personne,
sûr.
Tout le monde y parle maintenant, mais personne ne savait que ce qui allait arriver mardi, parce que là j'ai l'équipe de mardi. Et Barcelone était qualifié. Et j'ai l'équipe de mercredi, Ajax, il était qualifié. Alors tout le monde va parler.
Bien sûr,
mais tout le monde y parle, surtout les journalistes. Mais je dis,
on est payé pour ça.
Mais, oui, mais je dis, c'est incroyable et c'est ça que c'est beau le football, l'imprévisible. Tu ne peux pas être sûr de rien. C'est pour ça que c'est beau.
Dominique.
Bah, une réforme, c'est quand on veut améliorer les choses. Là, c'est plutôt un saccage. C'est plutôt une protection. C'est plutôt essayer de limiter les risques, limiter l'imprévu. Donc, c'est le contraire à l'esprit du football. Donc, c'est pas une réforme. C'est vraiment un sabotage. Et quand on voit l'édition, parce que moi, je veux bien qu'on parle des demi-finales, mais il y a eu la Juve qui avait perdu 2-0 contre l'Atlético Madrid, qui a gagné 3-0. Il y a eu Manchester qui avait perdu 2-0, qui a gagné 3-1 au Parc des Princes. Donc, il y a eu à chaque tour des surprises incroyables, des renversements. Ça a été beau. Il y a eu en quart de finale Tottenham City, le retour City Tottenham à l'Etihad Stadium. Il y a eu que des matchs, au moins un par tour, qui était peut-être pas dans la légende, mais pas loin, quoi, qui était qui rentrait dans les annales du football. Bon, là, il se trouve que les deux demi-finales rentrent dans le panthéon, dans l'anthologie du football. On ne touche à rien, évidemment.
Alors, j'avais prévu de la poser un peu plus tard, mais on en parle tellement de cette Ligue des Champions. Avant de rentrer un peu plus dans le match d'hier, je vous la pose, cette question. Est-ce que, parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde se la pose depuis hier, est-ce que c'est la plus belle? Est-ce qu'on a déjà vu une campagne de Ligue des Champions plus emballante, même si c'est toujours délicat de comparer des époques, des sports qui ont évolué? Votre avis, Habib?
Non, je pense que c'est la plus belle. C'est la plus belle parce que je crois que le football de ces dernières années a donné beaucoup d'idées à beaucoup d'équipes. Je parle de ce principe de la remontada. Là, c'était un comeback à l'anglaise, parce que c'est pas une remontada. Le mot comeback, je veux dire, s'accroche à Liverpool et à Tottenham. Je crois que maintenant, on pourra plus considérer qu'un match est terminé. On pourra plus considérer qu'une équipe est qualifiée. Parce que on a vu, par exemple, le PSG, mais comme l'a dit Dominique, il y a eu la Juve, et maintenant il y a Tottenham, et puis il y a Liverpool. Donc,
même une équipe qui
va gagner 3-0, 4-0, sera pas forcément qualifiée, parce que ça donne des idées. Je pense que le match de mardi a donné des idées aux joueurs de Tottenham aussi dans cette seconde période. Forcément, ça a influencé. Donc, oui, c'est la plus belle parce que on en a parlé. Il y a eu City contre Tottenham avec ce 4-3 et cette VAR qui annule un but à la dernière seconde. Là, ce but à la dernière seconde de Lucas, le 4-0 en Field, c'est la plus belle, clairement.
C'est la plus belle parce que la plus belle finale que j'ai vue, et je l'ai vue en plus en vrai, c'était Liverpool AC Milan en Turquie, avec déjà une
3-0 puis 3-3.
Voilà, une remontada en une période de la part de Liverpool, de Benitez, hein, si je dis pas de bêtises,
face
au AC Milan d'Ancelotti. Ça, c'était la plus belle finale peut-être de tous les temps. Après, il y a des finales que j'ai pas vues dans les années 50, 60, hein, je vous l'avoue. Mais là, depuis, dans l'histoire moderne du football, on va dire que ça fait bien 20, 25 ans qu'on suit la Ligue des Champions chaque année. C'est la plus belle édition que j'ai vue, ouais, effectivement. Et je pense que le fait que Mourinho n'était plus entraîneur en phase de l'élimination directe et que Diego Simeone se soit fait éliminer assez vite, de football que je respecte mais que je n'aime pas, c'est pas du tout ma culture, le fait qu'on soit tombé uniquement sur des équipes qui jouent le football offensif avec des styles différents mais qui étaient là pour marquer des buts, qu'importe entre guillemets s'ils en prenaient, a changé aussi la donne. Je pense que Tottenham avec Pochettino, peut-être on en reparlera, Jürgen Klopp, l'Ajax, l'état d'esprit de l'Ajax, voilà, Solskjær, ce qu'il a voulu faire, même s'il n'a pas fait exprès, peut-être le PSG lui a donné, voilà, Guardiola historiquement, qui est un entraîneur, Valverde avec les défauts qu'a Barcelone, qui n'est plus trop une équipe, qui a juste Messi, mais on a eu que des équipes qui jouaient, et donc ça aide à avoir du foot, quoi.
Carlos, votre avis, vous les avez vécues presque toutes. Oui,
mais non, je pense que c'est peut-être que ça peut être la plus belle, si vous voulez, mais ce ne sont pas les grandes équipes. C'est ça que c'est marrant. Parce que vous n'allez pas dire que Liverpool, c'est une grande équipe, et Tottenham, moins encore. On ne peut pas dire qu'ils sont des grandes équipes. Parce qu'aucune des deux équipes, ils vont faire histoire. Parce que Barcelone, il était 10 fois sur 15 champion d'Espagne. Et il a gagné 5 champions. C'est des équipes que circonstanciellement, le match qu'il fallait le gagner, ils ont fait des exploits que eux-mêmes ils croyaient pas, je pense. Parce que il a dit.
Mais c'est ça qui est beau.
Et l'entraîneur de Liverpool lui-même, il a dit, si on doit être éliminé, mais honoré. Comme en disant, on va perdre bien comme il faut. Mais à la fin, ils se sont qualifiés. Et Tottenham, il croyait pas vraiment, je pense, à 2-0 qu'il allait être qualifié. Et se sont qualifiés, surtout avec un joueur qui n'est pas titulaire, parce que Lucas, il n'est pas titulaire, et en plus un mec qui marque 3 buts, en étant droitier, il marque les 3 des pieds gauche. Ce sont des choses bizarres.
Carlos, c'est terrible, c'est quand je lui donne la parole, il me bouffe toutes mes stats.
Le vainqueur va marquer l'histoire, non? Il va faire l'histoire, il va être une grande équipe. Tottenham,
oui.
Liverpool, non,
mais surtout que Liverpool, mine de rien, c'est une équipe qui était déjà en finale l'année dernière. C'est vrai que lorsqu'on regarde ce 11 de départ, si on isole les 3 devant, qui sont pour moi 3 joueurs qui peuvent prétendre à jouer dans n'importe quel top club en Europe, Robertson était inconnu au bataillon il y a 18 mois, Alexander-Arnold sort de formation, ils ont le meilleur défenseur du monde actuellement, Van Dijk, ça c'est, il n'y a aucun doute là-dessus, Matip, ça va dans aucun des 5 clubs en Europe, vous avez Henderson qui est un anglais pur, qui sortira jamais de ce championnat, vous avez Milner qui aujourd'hui a 33 ans, qui est un homme de devoir, qui est celui, le point fixe de Jürgen Klopp, il fait son équipe autour de lui parce qu'il sait que c'est un grand professionnel. Ensuite vous avez le petit Naby Keita, vous avez Wijnaldum, mais ces joueurs-là ne jouent pas dans les top clubs. Par contre, lorsqu'on regarde Salah, Mané et Firmino, l'année dernière, c'est 30 buts en Ligue des Champions à E3. Donc, c'est pas n'importe quelle attaque. Et l'année dernière, ils ont marqué en finale de Ligue des Champions, je pense à Sadio Mané. Donc, on peut considérer que Liverpool est sur la continuité de ce qu'ils ont fait l'an passé.
Puis c'est un grand club.
Une finale de Ligue Europa. Ne pas oublier que Liverpool risque de finir deuxième avec un total qui les aurait mis 24 fois sur 26 champions d'Angleterre sur les 26 dernières années. Mais parce qu'il y a City et qu'il fait une saison extraordinaire, Liverpool risque de ne pas être champion, même s'il y a encore une dernière journée. Donc pour Tottenham, je suis d'accord avec Carlos.
Donc ça veut dire quoi?
Mais
finalement,
sur Liverpool, malgré tout, c'est une équipe qui collectivement a dégagé une force incroyable sur ces 2-3 dernières années.
Et si Tottenham remporte la Ligue des Champions, cette équipe-là marquera l'histoire.
Oui, mais est-ce que finalement l'histoire serait pas vraiment belle sur... ferait pas que cette Ligue des Champions resterait dans l'histoire si c'était Liverpool? Liverpool, il y a tellement d'histoire derrière.
Bah, c'est le favori.
C'est les années 70, c'est un peu des années 2000.
Non, mais c'est surtout que ça fait énormément d'années qu'ils n'ont pas gagné titres.
Oui.
Ils sont pas champions d'Angleterre depuis plus de 30 ans. La Ligue des Champions l'année dernière, j'ai entendu Jürgen Klopp en conférence de presse qui a dit on a vraiment échoué, c'est-à-dire qu'il a appuyé sur le mot qu'ils avaient échoué, mais d'une façon assez catastrophique. Il a considéré que ce match n'avait pas existé dans ce match face au Real Madrid. Donc je pense qu'il veut absolument, au moins comme on l'a dit, être représenté par son équipe pendant 90 minutes et voir surtout le niveau de son équipe, ce qu'il n'a pas vu l'année dernière. Donc si Liverpool gagne, oui, on pourra considérer que c'est un club légendaire déjà qui risque de gagner la
Ligue des Champions. Cette édition est légendaire. Un peu plus que si c'était un
champion. Il y aura peut-être une petite finale.
Et attention.
Hein.
Oui. Excusez-moi, Dominique. Le match le plus important, que c'était celui du mardi, ils n'ont pas joué Firmino et Salah. Pas grâce à eux qu'ils se sont qualifiés.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et Tottenham s'est qualifié sans Harry Kane, qui sera de retour le 1er juin, a priori, comme Salah et Firmino, en tout cas, on l'espère. Les deux équipes devraient être au complet, mais c'est vrai aussi que, je l'ai dit, c'est la 7e finale entre clubs d'un même pays, et on peut pas dire que les précédents nous aient laissé des souvenirs extraordinaires.
C'est pas terrible en général.
On rappelle, hein, Real Madrid-Valence en 2000, 3-0, l'affaire est vite trop vite plié. Milan-Juve en 2003, 0-0, ça se passe au tir au but. Manchester United-Chelsea en 2008, 1-1, ça se passe au tir au but. Bayern-Munich-Dortmund, ça c'était pas mal, 2-1 pour le Bayern. C'était en 2013, 2014 et 2016, Real-Atlético Madrid, ouais, les deux fois.
Là, il est beau.
Ouais, il y a un 4-1 après prolongation.
Avec un but de Sergio Ramos à la dernière minute, donc il y a quelque chose qui se passe autour de ce match qui était quand même assez incroyable.
Et en 2016, il y a 1-1 et ça se passe au tir au but.
Pour revenir à ce que vous disiez, Olivier, il y a quand même Liverpool qui est ultra favori. En championnat, ils ont gagné deux fois contre Tottenham. Bon, ça veut rien dire, mais
deux fois deux.
Ils sont ultra favoris. Ils ont été en finale l'année dernière. Ils ont un parcours, alors à part la demi-finale retour, qui est moins miraculeux quand même que celui de Tottenham. Tottenham, à part ce match hier soir, bah, c'est cette deuxième période en fait. Ils sont dans cette fin de championnat en grosse difficulté.
Ils étaient sur trois défaites de rang.
Même s'ils ont accroché la quatrième place et qu'ils vont la garder puisque Arsenal ne peut plus les rejoindre. Après, moi, je m'interroge. Le championnat se finit ce week-end. Et il va y avoir trois semaines sans jouer. Parce que la coupe, il y a une coupe entre Manchester City et Watford.
Oui.
Et donc pendant trois semaines, ils ne vont pas jouer. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont faire ces
deux équipes? Ils vont récupérer Kane.
Oui, ils vont récupérer Harry Kane.
Mais pendant trois semaines,
ça là, sans doute de l'autre côté.
Alors merci le championnat anglais pour l'organisation du calendrier. Je sais bien qu'ils ont un Boxing Day qui joue beaucoup l'hiver à Noël.
C'est vrai que ça peut casser le rythme.
Mais dans trois semaines, on fait comment là? On s'en joue pendant trois semaines.
Oui, sur des compétitions, il est possible que les clubs envisagent d'organiser un match éventuellement entre ces deux.
Ouais,
ces
mais
deux
ça c'est des matchs à la con.
Ouais, je sais.
Que Toulouse qui a été blessé, oui, tout est flamme.
T'as tout à fait raison, Carlos. Mais c'est vrai, trois semaines, c'est beaucoup. Trois semaines sans jouer une grosse compétition en termes de rythme, même si ces joueurs-là ont quand même 50 matchs derrière eux. Maintenant, il faut s'en servir pour régénérer un petit peu l'effectif, mais c'est sûr que pour un entraîneur, je suis pas sûr que ça soit une période...
Non.
Ouais, parole à l'entraîneur.
T'as envie de jouer à la semaine suivante, la finale. Au plus tard, 10 jours plus tard, et partir de vacances. Après tous les matchs que t'as joué des championnats, de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de la Fédération, et les champions, la seule chose que tu penses, c'est de partir. C'est la vérité, ça. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Que le match, ça joue. Depuis un an, tu cours derrière ça. Tu veux jouer 10 jours plus tard. En Argentine, en Amérique, de ce côté-là, on est un peu plus organisé.
Mais c'est quand même fabuleux que la France, qui a quasiment aucune chance d'être en finale, finisse le 25 mai, donc à une semaine de la finale, un peu moins, et que l'Angleterre, qui a quand même historiquement, statistiquement, plus de qualifiés, donc qui a quand même plus de chances d'avoir un, et donc maintenant deux clubs en finale, prévoit son championnat à finir donc ce week-end on sera le 13 mai
le week-end du 11-12 mai, le 11 c'est surtout
voilà, et donc avec une finale qui est programmée, la date de la finale le 1er juin, on la connaît avant que les calendriers nationaux soient faits. Ça me paraît complètement absurde.
Surtout quand on voit quand on voit, Carlos, les équipes qui ont eu justement une semaine de récupération, 10 jours de récupération. On prend l'exemple du Barça qui a pu souffler tous ces joueurs qui ont joué à Liverpool. Liverpool a disputé un match énorme face à Newcastle,
difficile,
où ils se sont arrachés, où ils ont perdu Mohamed Salah. Lorsqu'on voit les 90 minutes de Liverpool physiquement par rapport à Barcelone, on a l'impression que les deux équipes, celle qui s'est reposée, c'est Liverpool. Donc il n'y a pas réellement de vérité, il y a aussi cette d'adrénaline qui vous porte, et trois semaines c'est beaucoup.
Tottenham avait eu deux joueurs expulsés le week-end dernier, ils avaient terminé à 9, donc ils avaient brûlé des calories, alors que l'Ajax avait remporté assez facilement la finale de la Coupe des Pays-Bas.
Peut-être que les Anglais ils ont essayé de finir plus tôt le championnat, en pensant à la Coupe d'Europe l'année prochaine, qui vont jouer les éliminatoires, non? Il n'y en a pas les éliminatoires?
Pour le championnat d'Europe, l'Euro 2020,
il y a des matchs en juin.
Peut-être qu'ils démarrent plus tôt le championnat, je ne sais pas.
Ouais.
Je sais pas.
En tout cas, elle est bien tardive. On rappelle que cette finale, ce sera le 1er juin au Vandamme Metropolitano.
Écoutez, les Anglais, à niveau des sélections, ils ne gagnent jamais. C'est pour ça que je dis peut-être qu'un jour, ils sont pincés.
Ils gagnent en club, ils gagnent pas en sélection. C'est un peu l'histoire du rugby français.
Parce qu'ils
français
sont pas des équipes anglaises. Ce sont des équipes anglaises et sans des Anglais.
Je peux continuer ou pas, monsieur Blanqui?
Oui.
1er juin, la finale. Jusqu'à au Vandamme Metropolitano.
Jusqu'à demain qu'arrive madame.
Madrid, ouais, la dame rentre demain. Rassurez-vous, amis, sur Facebook, elle est là. Elle était en vacances, elle était pas malade, s'occuper de ses chats. Elle arrive pour un café des sports qui promet. Vous l'imaginez, là, le face-à-face. Rémy N'Gono face à Alejandro Valente, Xavier Barret.
Ouais, ça va être quelque chose.
C'est sponsorisé par Ring en folie. C'est des gens qui louent des rings. Ça va être.
Mais vraiment, quel retour pour la dame. Je suis content d'être là aujourd'hui.
Oui, moi aussi. Je serai sur la route demain. C'est très bien. Peut-être que j'écouterai pas d'ailleurs. Dites donc, on revient sur le match d'hier quand même, les amis. À chaque fois que l'on pense avoir tout vu, et bien être prêt à tout, patatras, surprise à tout va. Reprenons le fil du match. On l'a entendu tout à l'heure. 5e minute, De Ligt de la tête. 36e, Ziyech le Marocain sur une passe de Tadic. 2-0. la finale est dans la poche à la mi-temps, on débouche les canettes. Eh ben non, 55e, Lucas, un contre stratosphérique. 59e, Lucas, cafouillage dans la surface. Après une parade de Nana, on se demande comment il a pu récupérer ce ballon,
c'est
Lucas.
Beau ce qu'il fait.
95e, Lucas, comme l'a dit tout à l'heure Carlos Bianchi, qui nous pique tout. 3 buts du pied gauche, pas mal, pour un pied droit. L'homme du match, il a 10 ce matin dans l'équipe. Et c'est évidemment mérité. Il n'y a pas eu d'autres hommes. Il y en a eu d'autres. Mais je veux dire, Lucas Moura, c'est
j'en
le
J'en ai 9, moi, parce que historiquement, je n'aime pas Lucas quand il était au Paris Saint-Germain. Mais je trouve qu'il a fait une première période qui n'est pas bonne. Mais après, il change le destin de l'équipe. Donc voilà, je trouve que 9 aurait suffi, ou 9,5, mais ils n'ont pas le droit de demi-point dans l'équipe. Je trouve que 10, c'est la même note que Messi dans des matchs de Ligue des Champions, par exemple contre le Bayern Munich, quand Boateng tombe dans la trappe. Voilà, je trouve que c'est pas le même 10, mais bon, après...
Après, c'est pour le symbole. Voilà. C'est plus pour le symbole, et puis en plus, l'équipe a voulu être un petit peu sarcastique avec le fait que Lucas soit sorti du PSG. Mettre ce 10, c'est une façon de dire, voilà, vous avez laissé partir un joyau, alors qu'il faut pas avoir du tout cette réflexion. Je pense
non,
que Lucas
c'est facile après.
Est le même joueur qu'il était lorsqu'il était à Paris. Il était remplaçant, comme l'a dit Carlos, à Tottenham. Il joue parce qu'Harry Kane est pas là en ce moment. Maintenant, c'est une magnifique soirée pour lui. Et surtout, je pense que Llorente l'a rendu meilleur dans ce match. Et ce qui a changé du coup pour Tottenham, c'est vraiment l'entrée de Llorente.
Alors je vous propose, on va revenir sur Lucas, mais d'abord, écoutons-le. C'est la séquence émotion. Le but d'abord, puis les larmes avec nos confrères brésiliens en zone d'interview.
Emociona, né, Lucas?
Desde criança era um sonho para mim jogar Champions League.
Depuis l'enfance, ça a toujours été un rêve pour moi de jouer la Ligue des Champions, un rêve de conquérir des titres. Et maintenant, j'ai l'occasion de jouer une finale. Et puis tout ça, c'est aussi pour ma famille, mes amis, tous les habitants de mon quartier au Brésil. C'est vraiment très difficile pour moi d'expliquer ma joie. C'est grâce à Dieu, il nous surprend tout le temps sans doute. J'ai toujours cru que c'était possible, même en étant mené 2-0 à la mi-temps. J'avais vraiment la foi. Et j'ai mis mon troisième but. Je suis aussi très fier de mon équipe. Vous savez, le foot, c'est ma vie. Il n'y a que le ballon rond qui peut me procurer autant de bonheur aujourd'hui.
Seul le football peut nous proporcionner des moments comme ça.
Ça, faut reconnaître, les gars, que s'il y a un dieu, cette semaine, il aimait le foot, hein. Il n'y a pas de problème.
Et
il
la Ligue 1,
fait ce qu'il fallait.
Et la Ligue 1, Origi et Lucas, oui, sont les deux stars de la semaine, oui. On joue en Ligue 1.
On jouait en Ligue 1. Lucas, voilà, c'est facile de chambrer et de se moquer du PSG. Voilà, vous l'avez rappelé, vous avez raison. Restons le passé, c'est le passé. Il a fait la perf totalement inattendue de sa part hier. Harry Kane est blessé, il est titulaire et boum, il nous en claque.
Et plus sur un côté, même s'il a joué un petit peu des deux hier.
Parce qu'il s'arrache quand même. Carlos, votre avis.
Le troisième but, c'est incroyable. Le premier aussi. Il fait des blocs d'un attaquant qui vraiment, c'est difficile à faire.
Ce double contact là pour récupérer cette balle. Onana fait une parade comme il en fera jamais plus. Enfin si, en finale de la CAN, la prochaine CAN, il va faire
mais
cette parade.
Contre le deuxième,
contre le Sénégal.
Ouais, le deuxième est le
plus beau dans l'enchaînement.
Mais tu sais que je te dis la vérité. Moi, il y a des choses que quand tu les regardes. Il n'a pas un coup méchant. Lui, il était défenseur. Tu sais combien de coups méchants qu'il aurait dû, il a donné. Et tu sais combien de fois il a frappé le ballon à la tribune.
Il est gentil, Abid.
Écoute, demande-lui. Écoute, il n'a pas eu un ballon à la tribune. Il n'a pas eu un coup méchant. Ça sont des choses que je comprends pas au football. Moi, mes joueurs, je leur disais, attention, j'ai vu Beckenbauer frapper le ballon à la tribune. Beckenbauer, je l'ai vu frapper le ballon à la tribune.
Et
on sait qu'est-ce que j'étais. Non, parce que il fallait le frapper à la tribune, sinon il perdait. Alors là, le match comme mardi Barcelone, ils ont joué le match trop léal, trop fidèle, trop gentil. Et au football, tu joues gentil quand tu es plus fort. Quand tu n'es pas plus fort, tu peux pas être gentil.
Mais est-ce qu'on peut changer sa nature profondément
Mais là, je rejoins Carlos parce qu'hier, il y a un moment. On est à
vous parlez de l'Ajax là. Ouais, l'Ajax. Finalement la jeunesse de l'Ajax,
on est à deux minutes de la fin et vous avez Ziyech qui reçoit un ballon le long de la ligne et qui tente un sombrero. Je sais pas si vous vous rappelez de cette action, qui glisse et qui perd ce ballon. Alors que ce ballon, à la rigueur, il peut l'envoyer très très loin ou éventuellement l'emmener le long de la ligne, aller perdre du temps. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde également Onana qui change de ballon 3 fois et qui se prend ce carton jaune.
Mais oui.
Dans les arrêts de jeu, il force Monsieur Brich à dire « Ok, tu veux jouer avec moi ? Pas
oui,
de problème,
bien
on a
sûr.
Mis 5 minutes, on va mettre 6. » Et mine de rien, regardez, ils prennent ces 5 minutes d'arrêt de jeu et ils prennent le but à la 96e minute. Je dis pas que ça a joué un rôle essentiel, mais ces petits moments dans un match de football sont très importants. Et parfois, on les néglige. Parfois, on se dit, bon, si je perds le ballon, c'est pas très très grave. Et c'est vrai que l'Ajax, peut-être que dans son ADN, c'est de jouer au football, mais dans ces moments-là, et on le voyait, on le sentait dans le stade, on s'est dit, quand Ziyech met son poteau, on se dit, et d'ailleurs, on l'entend, Eric ouais, Dimeco le dit, et moi, je l'ai dit au commentaire, des fois, il y a des signes. Quand vous voyez Messi à Anfield frapper deux fois, mettre deux fois à côté, tenter un crochet alors que d'habitude il frappe et il marque, vous dites peut-être qu'aujourd'hui c'est pas la soirée du Barça. Et ces petits signes sont négatifs. Et il l'était pour l'Ajax quand il y a 2-2 pour Tottenham. Il y a plein de moments où on se dit attention, ce genre de match qui vont le filer entre les doigts.
Il rate un but, c'est lui qui marque le deuxième. Il rate un but incroyable.
Exactement.
Oui, tout seul.
Mais je suis d'accord avec vous. Après, je trouve que c'est moins condamnable pour l'Ajax que pour Barcelone, par exemple. On parle pas de la même structure d'équipe, de la même maturité. Ils n'ont pas le meilleur joueur du monde avec eux, ou peut-être de tous les temps.
Et Barcelone sont pas les mêmes non plus, attention, hein.
Oui.
Barcelone, c'est Liverpool. Oui. Et Ajax, c'est Tottenham.
Oui, mais.
Il y a un écart, hein, entre Tottenham et Liverpool.
Mais, c'est vrai. Mais, je trouve que l'Ajax, j'ai pas envie qu'on parle en mal de l'Ajax ce matin, aujourd'hui, ce soir, pareil, ce qu'ils ont fait.
Ah
quoi.
Oui, c'est vrai,
parce que c'est une campagne, mais fantastique, des joueurs qui se sont révélés, avec un bonheur retrouvé, une enfance pour les quelques quadragénaires, quinquagénaires, sexagénaires, septuagénaires qui peuvent nous écouter, parce que c'est l'Ajax, on a tous une histoire avec, avec ce club, voilà.
Puis on rêvait d'une finale Liverpool-Ajax.
Mais moi, j'avais
sentait bon les 70s. Amis
a commencé l'émission en disant, on pourra plus jamais dire qu'un match est terminé. Moi, à la mi-temps, j'étais en train d'envoyer à mes copains des textes. Quelle finale, Liverpool-Ajax, ça va être génial. J'ai envie d'être à Madrid le 1er juin. Bon, bah, évidemment, c'est pas ça la finale, mais oui, parce que voilà, moi je voyais De Ligt, De Beek, De Jong, le gardien, tous, Ziyech.
Ziyech, ouais. Ça aurait pu être une finale africaine comme rarement avec avec les Africains de Liverpool, ceux de l'Ajax. On avait compté hier qu'il y en avait 8 potentiels, il y en a ou 2 blessés, on aurait pu en avoir 6 sur le terrain. Voilà, on pense au continent. Vous êtes là, on sait.
Et Sadio Mané sera là. Sadio Mané sera là.
Et Mohamed Salah sera là.
Exactement. Mais bon,
il y aura deux Argentins quand même.
Il y aura peut-être Serge Aurier. Non, pas sûr.
Il y a deux Argentins, hein.
Même si.
Oui, mais on a moins d'attaches RFI avec les Argentins, sans vous manquer de respect. On en connaît deux, vous et le RFI. Ça nous suffit.
Il y aura deux Français, il y aura Moussa Sissoko et Hugo Lloris.
Moussa Sissoko qu'on a beaucoup vu en première période hier, il était là. Heureusement qu'il était là dans l'impact.
Et Hugo Lloris, quand même, finale de Coupe du Monde le 15 juillet 2018, finale de la Ligue des Champions le 1er juin 2019, c'est pas mal. Hein.
Dites donc, c'est pas le seul Français champion du monde qui réussit sa saison d'après. En tout cas, il sera le seul champion du monde en finale de cette Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup.
Je trouve que Griezmann et Mbappé ont pas trop mal réussi. Je trouve qu'Olivier Giroud, qui se contente de miettes, est meilleur buteur de la Ligue Europa, on se parle.
N'Golo Kanté est titulaire chaque match à Chelsea, même si je pense qu'il est un petit peu moins bien dans ce rôle de relayeur avec Sarri, mais ça c'est plus une
question de positionnement. Après le reste, c'est sûr que si vous parlez d'Adil Rami ou de Kimpembe...
Il joue pas ce soir.
Il est blessé. Tottenham en tout cas restait sur 8 défaites sur ses 9 derniers matchs à l'extérieur. Tottenham n'avait joué en tout et pour tout qu'une demi-finale en 62 Ligue des Champions. Tottenham c'est d'abord peut-être Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino hier c'est une image à genoux, en larmes, et puis c'est ça aussi.
Tu sais que j'aime bien.
Mes joueurs sont tous des super-héros, et Lucas en est un aussi. Je pense que c'est un triplé incroyable. Il le mérite, c'est un type super. Je pense que tout le monde au club mérite ce qui arrive actuellement. Après tous les moments difficiles qu'on a vécu depuis 5 ans, nous avons la chance de jouer une finale. C'est extraordinaire.
To play a finalist, it's amazing. I want to remember. My family.
Je vais me souvenir de ma famille, c'est aussi pour eux. C'est incroyable de pouvoir récompenser ces personnes qui nous soutiennent.
In that moment, it's amazing to reward them.
C'est un métier de cinglé, entraîneur. Comment vous avez pu faire ça? Comment vous pouvez avoir envie de le faire? Et écoutez, ces larmes, on n'entend que des larmes depuis le début de cette émotion, mais elles sont belles, ces larmes. C'est des larmes de bonheur. Mais lui, quand même, ce gars-là, qui a rien gagné, à qui on disait oui, c'est bien, il gagne rien. En 5 ans, il a dépensé 29 millions de livres. Ça doit faire quoi? 35 millions d'euros. En 5 ans pour recruter des joueurs, et il est en finale de la Ligue des Champions. On a rappelé le parcours. En quart de finale, il est éliminé, puis finalement, il est requalifié grâce à la VAR. Bing! Il se voit éliminé, puis finalement il est qualifié. Faut avoir un cœur.
Serge Aurier et Lucas, déjà, ça dépasse votre chiffre. Donc vous êtes sûr qu'il a recruté que pour 35 millions?
Ça veut dire que vous doutez des tweets de Bruno Constant?
C'est-à-dire que Lucas, c'est 28 et Serge Aurier, c'est 22. Donc déjà, ça fait 5 ans. Et 29, déjà.
Alors est-ce qu'il n'y a pas eu l'attente des prêts des matchs
argent? L'Argentine, ils ont payé 20 bâtons.
Bon, mais bon, vous pouvez appeler Bruno Constant pour vérifier son tweet, s'il vous plaît.
Ceci dit, ils n'ont pas recruté cette saison parce qu'ils ont tout concentré sur le nouveau stade.
Peu importe le chiffre, ils n'ont clairement pas dépensé beaucoup d'argent depuis 5 ans.
C'est une équipe qui travaille bien.
Lui, il a eu comme entraîneur, Pochettino, il a eu l'entraîneur de Leeds.
Bielsa.
Mais il n'a rien à voir avec... Il n'a rien à voir quand tu le vois. C'est un mec mesuré, sur le terrain, tranquille. Il est copain de ses joueurs. Tu te rends compte de ça. Et l'entraîneur de Leeds, il n'est pas pareil. Et c'est de l'école de lui. Quand il a démarré à Newell's Boys, il était son entraîneur.
Il parlait que de lui.
Pochettino est quelqu'un qui travaille très très bien. Mais vraiment très très bien, on le voit depuis quelques années, il n'a pas beaucoup dépensé, c'est une équipe qui a constamment progressé. C'est vrai que même si elle n'arrive pas à atteindre le titre de Première Ligue, mais quand on voit aussi cet effectif, on peut considérer que c'est pas un effectif que vous mettriez dans le top 5 européen, poste par poste. Aujourd'hui, Hugo Lloris, tout le monde dit que c'est presque pas dans le top 5 des gardiens anglais, on comprend pas pourquoi, au vu de la saison qui fait.
Sheriff Gilmour assure ici depuis 15 jours que c'est même le meilleur gardien du monde actuellement.
Non, c'est Ter Stegen.
Non, je pense que Ter Stegen est au-dessus, même si Ter Stegen n'a pas été décisif face à Liverpool.
Il a arrêté que
ce qui est bien avec Pochettino, c'est que je pense que aujourd'hui c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Il a quand même été annoncé dans de très grands clubs. Il est toujours resté fidèle à Tottenham. Il est dans un projet de développement. Et je crois que malgré tout, le travail qu'il fait est très très bon. Il a perdu 19 fois cette saison, toutes compétitions confondues. C'est beaucoup pour une équipe qui aujourd'hui est en finale de Ligue des Champions. Mais c'est aussi construire un groupe et un état d'esprit de gagner cette compétition. Et on en parle souvent avec le Paris Saint-Germain. Lorsqu'on voit aujourd'hui l'Ajax, 89 millions d'euros de budget, on dit que Tottenham n'a pas dépensé. Ils sont un en demi-finale, l'autre en finale de Ligue des Champions.
Mieux vaut construire qu'acheter.
Mais Jürgen Klopp aujourd'hui a construit justement cette âme, cet état d'esprit autour de son équipe. Comment vous voyez que Firmino et Salah sont absents et que vous avez Shaqiri qui est passeur décisif, qui a fait un effort énorme défensivement dans cette équipe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de Shaqiri. Il a pas été bon offensivement, à part ce très bon centre. Mais par contre, défensivement, si vous analysez son match, il a été exceptionnel. Vous avez Origi qui joue jamais. Et ben malgré tout, il met un doublé. C'est qu'à un moment donné, vous avez un coach qui insuffle quelque chose. Parce que ces deux joueurs savent que le 1er juin, ils seront sur le banc. Ils le savent pertinemment que ces deux joueurs sont sur le banc. Ça sera Salah et Firmino dans le 11 de départ. Mais malgré tout, le coach lui dit aujourd'hui, peut-être que tu peux devenir le héros de toute une ville. C'est-à-dire qu'Origi, aujourd'hui, peut partir jouer à West Bromwich. Il aura son nom écrit en lettres d'or sur Anfield, quelque part. On dira Divock Origi, le 7 mai 2019, a changé la phase d'un match. Donc à partir de là, c'est aussi ça le rôle d'un coach. Et quand on voit aujourd'hui Pochettino pleurer, appeler Hugo Lloris et lui dire « tu es le meilleur gardien du monde ». Vous savez, Guardiola, vous regardez sa série, il dit à De Bruyne « t'es le meilleur joueur du monde ». C'est pas vrai. Le meilleur joueur du monde, c'est Messi. Mais quand il lui dit ça, De Bruyne y croit qu'il est le meilleur joueur du monde. Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de l'empathie, parce qu'il est capable de lui faire intégrer qu'il est le meilleur joueur du monde. C'est ça aussi les grands coachs, de vous faire croire que vous pouvez renverser des montagnes. Et le job de Pochettino et de Jürgen Klopp sur cette Ligue des Champions, ça a aussi été ça.
Et tout le monde se demande ce matin pourquoi il y a deux clubs anglais en finale. Et pour moi, c'est tout à fait ce que vient de dire Habib. C'est-à-dire que c'est pas forcément le plus grand championnat du monde. Pour moi, c'est l'Espagne. Pas forcément là où il y a les plus grands joueurs. Encore une fois, l'Espagne avec Messi ou maintenant l'Italie avec Cristiano Ronaldo. Mais c'est là où il y a les plus grands managers. C'est-à-dire que Guardiola, Klopp, Pochettino, Sarri...
C'est où on paye plus.
Pardon ? Peut-être, mais la particularité du championnat anglais, c'est quand même d'avoir des monstres sur le banc. Alors, il y avait Mourinho, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, c'est pas ma tasse de thé en termes de football, mais c'est quand même un mec qui a gagné 3 Ligues des Champions, donc on le respecte. Donc,
évidemment.
Voilà, c'est pas du tout le football que j'aime, c'est souvent le bus, le mur, on n'a pas dépassé la ligne médiane.
Bon. Le palmarès fait foi.
Palmarès de n'importe qui, tu dois le respecter. Voilà. Tu dois avoir du respect. Ça te plaît ou ça te plaît pas, mais tu dois avoir du respect.
Et c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de choisir entre Ronaldo et Messi. Je dis ça toujours pour nos auditeurs.
Oui.
Happy Bay qui vient de dire Messi le meilleur joueur du monde, on va encore avoir des réactions.
On a conscience d'avoir la chance d'avoir
ces deux grands joueurs.
Il se trompe pas. Lui, il est intelligent, il dit les choses comme il faut. C'est le meilleur de l'histoire.
Il y a le meilleur joueur, il y a le meilleur buteur. Ouais, mais tout le monde d'accord.
Le meilleur de l'histoire.
On vous aime. Dites-moi, justement, puisqu'on parlait de ses coachs, alors Klopp est pas tout à fait un nouveau venu, mais quand même, on a l'impression. Est-ce que c'est une nouvelle génération? Ten Hag, Pochettino, Klopp, ça prend la rêve des Benitez, des Ancelotti et tout ça.
Ten Hag, c'est ponctuel. On pourra dire ça lorsqu'il aura emmené ses équipes, si demain il part de l'Ajax. Jürgen Klopp, ça fait malgré tout beaucoup de finales que cet entraîneur joue. Il a pas eu la chance de les remporter, mais il est déjà allé en finale de Ligue des Champions, si je me trompe pas.
L'année dernière,
avec Liverpool
et en Ligue Europa, exactement. Il a perdu aussi.
Ce qui est bien, c'est qu'on voit Jürgen Klopp depuis 3 ans et demi maintenant à Liverpool. Pochettino, ça fait plus de 5 ans, donc ça veut dire que ces entraîneurs ont aussi façonné leurs équipes. C'est-à-dire qu'ils ont choisi leurs joueurs. Cette équipe joue comme eux, ils l'ont définie. Pour Erik ten Hag, je crois qu'il a eu aussi ses championnats pour affiner l'Ajax. Maintenant, le problème, c'est que ça sera plus du tout la même équipe l'année prochaine. On ne sait pas si lui sera l'entraîneur.
Donc, l'Ajax, il n'est pas premier, je crois, non?
Si, ils sont au même nombre de points, un goal average plus important.
Après, et il reste deux journées. Effectivement, une nouvelle génération d'entraîneurs, les Emery, les Tourelle, les Decadra, tout ça. Après,
ils sont tous différents. Hein.
Oui, ils sont tous différents. Puis on nous avait dit qu'André Villas-Boas, c'était aussi la nouvelle génération. Je ne sais même plus où il est, André Villas-Boas. Il s'est un peu perdu.
Il n'était pas en Russie.
Il a explosé.
Zenit Saint-Pétersbourg.
Il a explosé à Chelsea. Et puis voilà. Donc, toujours André Villas-Boas. Ah. Donc, la nouvelle génération, faut toujours se méfier aussi un petit peu des raccourcis, quoi.
Moi, ce qui me plaît, c'est que vous avez quand même, malgré tout, des entraîneurs. On a l'impression que les clubs dans lesquels ils sont leur ressemblent. Jürgen Klopp, on avait l'impression, et c'est peut-être parce qu'aujourd'hui il y a des résultats, mais quand vous voyez Jürgen Klopp, il colle vraiment à l'image de Liverpool, de ce qu'est Liverpool, dans la générosité, dans ce que représente ce club. Lorsqu'on a vu le match à Anfield, et ce débordement d'énergie, cette ambiance qui a été irréelle, hein, vraiment, vous voyez Jürgen Klopp, vous avez l'impression que c'est... Voilà, c'est ça, ça a toujours été écrit comme ça, il devait être là. Un peu comme avec Dortmund, c'est un petit peu les mêmes clubs hein, en termes d'ambiance et de ferveur.
Leur rapport avec les joueurs, ce qui frappe, alors c'est vrai que c'est dans la victoire, c'est peut-être plus simple, mais quand même, ça n'est pas fin. Klopp qui vient chanter « You never walk alone » et qui les enlace tous les uns après les autres, qui parle avec eux. Hier, Pochettino aussi, on la sent, cette émotion et cette complicité. Non, Carlos.
Il a des joueurs intelligents, pas seulement de bons joueurs. Parce que l'intérieur, toujours, il va essayer d'avoir tout le monde content. Tu sais qu'il y a des fois que ça te fait mal de laisser quelqu'un dehors.
Oui, j'imagine bien.
Tu es assuré, tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit. J'ai pleuré une fois. J'étais obligé à laisser à la finale de la Coupe du Monde à l'arrière-gauche qui venait de l'Atlético Madrid. Je suis allé voir dans la chambre et on a pleuré tous les deux ensemble. Et je te dis, aujourd'hui, il m'envoie des messages. Il m'a dit, vous m'avez appris beaucoup de choses dans la vie. Parce que c'est ça. Parce que lui, il était intelligent. Il n'a pas joué, il n'a pas été champion. Il a été champion du monde, parce que pour arriver là, il a joué avant. Mais le match décisif contre le Real Madrid, il n'a pas joué.
Qu'est-ce qu'on pleure dans cette émission aujourd'hui?
Non, mais j'ai dit la vérité.
Et après,
mais c'est bon.
Après, Olivier, cette édition aussi me fait dire qu'on ne sait plus ce qu'il faut pour gagner avec les champions. C'est-à-dire que toutes nos analyses... Un petit peu, on disait, il faut de l'expérience, il faut ceci, il faut cela, il faut un grand gardien.
L'institution.
Là, franchement, si vous trouvez un fil conducteur à tout ce qui s'est passé, où j'ai du mal, parce qu'il y a eu tellement de renversements dans tellement de matchs.
Le football.
Parfois, l'intérieur des matchs. Si vous pouvez dresser une ligne, un cap, moi, je ne sais pas. L'Ajax, c'est très jeune. Tottenham à une minute près, ils étaient pas en finale. Et bon, écoute, ce qui change rien à l'avis que j'avais sur Pochettino.
Olivier, quand tu penses qu'Ancelotti s'est fait critiquer parce qu'il n'avait pas des mains dures, parce que lui, il était copain, il fallait jouer comme lui voulait, il faisait lui l'équipe, mais il était copain de ses joueurs, et les joueurs, il aime bien ça. Il a du respect pour l'entraîneur, mais l'entraîneur, il faut pas qu'il soit l'odieux.
Très rapidement, chacun, 20 secondes, la finale, elle va se jouer où? Alors on sait, ce sera au Vandame Metropolitano, mais vous comprenez ma question. Ça, qu'est-ce qui va faire la différence? Liverpool, Tottenham, vous vous attendez à quoi?
Un match fermé, entre deux équipes qui se connaissent, qu'on peur, mais la supériorité de Liverpool qui va faire la différence, la supériorité offensive notamment.
Incapable de vous dire comment on va jouer cette finale, parce que sincèrement, déjà il y a 3 semaines entre et concrètement, on ne sait pas comment vont se sentir les deux équipes. Moi, j'ai aucune lecture sur cette finale, clairement, parce que ça nous a tellement surpris aujourd'hui. C'est un constant rapport de force qui change en quelques secondes, et c'est le football d'aujourd'hui en fait, en quelque sorte. Le football d'il y a un peu plus longtemps, on avait des choses qui étaient plus ou moins établies, mais là aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y en a plus, quoi.
Carlos.
Moi,
vous savez que vous serez au Mabillon avec un tartare, c'est ça?
Non. Ah, tu sais que hier soir, je lui ai dit oui, que je reviendrai Oui, et le deuxième anniversaire, le dimanche. Non, mais tu sais quoi, c'est, je ne vais pas parler qui est-ce qui va gagner, parce que mon souhait, il y a deux Argentins du côté de Tottenham, alors je vais, demander, je vais souhaiter qu'ils gagnent Tottenham. Même si Tottenham, à moi, comme club, il ne me dit rien. Mais si je suis de l'époque de Liverpool et qui gagne.
Oui.
Tu comprends ? Alors c'est là la question.
Allez, on va essayer de continuer à pleurer, de parler de Ligue des Champions, pleurer de joie bien sûr, hein, mais d'aller au rayon souvenir.
Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters.
Les Stéphanois se sont bien repris et ont fait plus que jeu égal avec des adversaires de Liverpool. Toujours 1-0 bien entendu, match nul sur l'ensemble des deux matchs. Et c'est Saint-Etienne qui attaque par Batley. Il y a Parizeau à sa gauche, quoi. Sinaguel à sa droite, il peut faire tirer de très loin. Et c'est celui de Batley. Un but fantastique, fantastique, je pense que nous allons le revoir. Zinedine Balné avec deux joueurs, Parizeau à sa gauche et Sinaguel à sa droite. Voyez le clan des Verts, car il y a plus de 10 000 supporters. Verts, voici, Batley, terrible Batley.
Bah oui, quitte à revoir Liverpool en finale de la Ligue des Champions, on t'en parlait aussi d'une autre équipe qui enchantait également dans les années 70. L'AS Saint-Etienne, à trois journées de la fin du championnat de France de Ligue 1, les hommes de Jean-Louis Gasset sont quatrièmes à un point de l'ennemi juré, Lyon. Sept longueurs devant Montpellier, qu'ils reçoivent demain avant que l'OL n'aille dimanche soir défier Marseille au Vélodrome. C'est chaud, très chaud, cette bataille pour le podium, parce qu'il y a une place en Ligue des Champions en jeu. Les Verts n'ont jamais été aussi près de retrouver la Ligue des Champions depuis le tour préliminaire. On a cherché. C'est Thomas Moulin qui a cherché notamment le tour préliminaire, saison 81-82. Ils ont été éliminés à l'époque par le Dynamo de Berlin. Et ça me rappelle des souvenirs. Ça s'appelait la RDA. À l'aller, Christian Lopez, vous l'avez forcément croisé, Christian Lopez, Carlos Bianchi. Et ben, sachez qu'au match aller, il avait marqué pour Saint-Etienne et pour l'autre équipe, c'est-à-dire contre son camp. Voilà pour l'anecdote. Ça vous rappelle des souvenirs, ça. Ça, c'est votre époque. Saint-Etienne finaliste en 76. Les poteaux carrés, le Bayern, quoi.
Et tu sais que 15 jours plus tard, le dernier journée du championnat, c'était où?
À Reims.
Reims, Saint-Etienne, 27 000 personnes.
Et vous marquez 8 buts.
Non, j'ai marqué 2 buts, on a battu 3-2. On les a battus 3-2, le finaliste. Il était Kurkovic, Janvion, Lopez, Piazza et Farisson. Batené, Larquet et Sinaguel. Patrick Revelli, Hervé Revelli et Beretta.
Quelle équipe. Mais c'est vrai que ça nous rappelle l'équipe l'époque de des albums Panini.
Oh, tu sais que, l'anecdote, ça vaut le coup. On était mené 2-0 à la mi-temps. L'entraîneur, il a dit, c'était, bon, je le dis pas. Alors, il nous a dit, les gars, restons derrière parce qu'on va prendre 10. Et il y a les stades pleins, jamais autant du monde. 26 000, même pas la grande époque. On a rentré dans le couloir, on était trois Argentins, là. La Ragnée, Santa Maria et moi. Je lui ai dit, Turco. Turco, c'était la Ragnée. Je lui ai dit, on va y aller les attaquer, on va les mettre minables. Je lui ai dit, ces mecs-là, ils ne peuvent pas courir 90 minutes. Ils ont joué la finale, ça fait 4 jours. 2-1, 2-2, 3-2. Et le troisième, il a marqué Jackie Verne.
Jackie Verne. Bah, enfin, en tout cas, ce Saint-Etienne-là est en train de revenir au premier plan depuis le 10 mars, c'est-à-dire depuis 2 mois, et une défaite à domicile face à Lille, 6 victoires, 1 nul, qui l'eût cru, et alors en plus, cette bagarre, c'est face à l'ennemi intime, face à Lyon, c'est vrai que ça donne un petit peu de piment, ça nous fait un week-end de là de Ligue 1 à 3 journées de la fin, qui est quand même intéressant, voilà. On se contente de peu, peut-être certains diront.
Non, mais c'est très intéressant. C'est intéressant de voir Saint-Etienne à ce niveau-là. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on parlait de l'influence des entraîneurs. Je pense que Jean-Louis Gasset a beaucoup fait pour cette équipe. C'est un entraîneur qui ressemble aux entraîneurs dont on a parlé dans le caractère, c'est-à-dire très proche de ses joueurs. Un petit peu papa qui chapeaute cette équipe. Moi, je me rappelle avoir commenté le match face au PSG. Et ils étaient très inquiets de la santé de tous ces joueurs qui étaient fatigués. Et depuis ce match-là, ils se sont relancés. C'est vrai qu'il y a une vraie dynamique. Quand on voit le match face à Monaco, on a l'impression que tout tourne en faveur de Saint-Etienne, et puis là c'est le moment clé, puisque Lyon va à Marseille, que Marseille a fait une saison assez difficile, et que peut-être pour se faire pardonner, ou en tout cas essayer de limiter la casse, il faut que les Marseillais gagnent contre les Lyonnais. Alors que Saint-Etienne reçoit, on peut considérer que cette journée peut être un vrai tournant dans la course à la Ligue des Champions.
Vous parliez de Jean-Louis Gasset, on l'écoute, Jean-Louis Gasset.
On va garder la même humilité, on sait que notre public va nous pousser, donc il y en a qui parlent de jouer les finales, là on va jouer deux finales. Deux finales, je vous ferai Guichard. On a fait quand même 19 points sur 21 dans les 7 derniers matchs. Il manque 3 matchs maintenant. On avance petit à petit. On progresse petit à petit. À tous les matchs, on a ou des blessés ou des suspendus. Et on s'adapte à la situation. Et les gens qui rentrent font le job. C'est l'état d'esprit de ce groupe qui est allergique à la défaite.
C'est une année, une saison nostalgie, Liverpool, l'Ajax, alors pourquoi pas les Verts, aller chercher ce podium, ça ne veut pas dire qu'ils seront en Ligue des Champions, on rappelle, hein, c'est tour préliminaire.
Ça serait bien que Chelsea la gagne, s'ils veulent être directement...
La Ligue Europa.
Voilà, pour qu'ils soient directement en Ligue des Champions, le troisième français, il faudrait qu'il me reste, je crois, hein, plus que Chelsea, qui est sûr de finir dans les quatre premiers en Angleterre. Puisque Arsenal, c'est fini. Valence, ça m'a l'air fini. Et Francfort, ça m'a l'air fini. Donc, il reste plus que Chelsea pour espérer qu'un club français soit directement qualifié à la troisième place.
Les grands clubs ne meurent jamais, Carlos Bianchi. Ils reviennent forcément à un moment, parce que quel grand club, quoi, Saint-Etienne.
Saint-Etienne, il y a une histoire incroyable, parce qu'après, ils sont descendus de Saint-Fer. Hein. Ils sont allés en deuxième division, et je me rappelle que jusqu'à 2004, ils étaient en deuxième division, je crois. Jusqu'au que Bernard Cayazo, il a pris l'équipe, il a acheté le club, et là, ils sont, 4 mois plus tard, ils sont montés. Et à partir de là, ils se sont construits, ils sont pas beaucoup d'argent, hein, quand on voit les autres équipes.
Budget autour de 80-90 millions d'euros.
Mais là, ils ont beaucoup dépensé au mercato, ils sont allés au-delà de leur salary cap, ils sont allés au-delà des investissements qu'ils avaient consentis jusqu'à maintenant, justement, pour redresser cette équipe, et ça serait très très bien pour eux. Justement, de toucher cette Ligue des Champions, parce que c'est une manne financière.
C'est une terre de foot.
Et vous avez quand même des joueurs qui sont prêtés, hein, dans ce club, qui peuvent repartir. Donc, il faudrait pas que ça modifie non plus le visage de Saint-Etienne l'année prochaine. Je crois que l'ambition pour eux, c'est déjà de se pérenniser au haut niveau et puis essayer de toucher les Coupes d'Europe. Si c'est la Ligue Europa, ça sera la Ligue Europa. Mais si c'est la Ligue des Champions, c'est tout autre chose pour Saint-Etienne.
Avec des hommes forts, Wahbi Khazri,
qui revient en forme au bon moment.
13 buts.
Ouais, qui revient en forme au bon moment, qui n'avait pas marqué pendant, je crois, presque 2 mois, et qui revient en forme au bon moment. Cabella également.
Cabella, 8 buts cette saison.
Qui est un joueur qui parfois est agaçant parce qu'il fait pas le geste juste. Là, on voit qu'il est décisif pour cette équipe. Les remplaçants qui rentrent, on a vu qu'il y avait un blessé, défenseur Kolo Dziedzia qui a été blessé. Nordin qui rentre, Beric qui rentre. Vous avez des joueurs qui arrivent à faire la différence. Donc, on a l'impression que tout roule dans cette équipe.
Yann Mvila, qui est quand même très présent, qui revient de loin lui aussi.
C'est la force de ce que disait Habib Bey, c'est-à-dire que Jean-Louis Gasset, qui est passé par l'équipe de France avec Laurent Blanc, est allé tendre la main à des joueurs un peu perdus comme Debuchy, comme Yann Mvila, des joueurs qu'il avait connus en équipe de France et qu'il a essayé de relancer par une sorte de mercato intelligent, malin, parce qu'au début, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent. Et ces joueurs-là, ils sont restés. Et aujourd'hui, en Ligue 1, c'est de l'expérience, c'est des joueurs quand même qui sont au-dessus du niveau de la Ligue 1. Donc c'est comme la pression est moindre à Saint-Etienne qu'à Lyon et qu'à Marseille. Bon, ils ont pu s'exprimer un petit peu librement jusqu'à maintenant. Là, les 3 derniers matchs, ça va être compliqué parce que maintenant l'attention est focalisée un petit peu sur Saint-Etienne. Donc maintenant, on va les regarder. Là, ils étaient pour l'instant, ils avançaient dans la position du chasseur. Bon, ils le sont toujours. Hein, ils sont pas 3e. Hein. Et puis bon, ils peuvent aussi remercier Jean-Michel Aulas qui s'est complètement pris les pieds dans le tapis avec son histoire de Genesio en faisant une conférence de presse avec Genesio pour dire un truc qu'on n'a pas compris, et Genesio avait l'air de découvrir aussi ce que le président disait, ce qui depuis fait que Lyon est un peu en dents de scie, encore plus que d'habitude. Donc voilà,
mais bon, il y a un coup à jouer avec un grand gardien, Stéphane Ruffier. Il y a de la solidité, il y a un coup à jouer. On n'est pas à l'abri de retrouver Saint-Etienne.
Il y a une image du club Perrin qui est quand même il est toujours là, hein, malgré son âge et
ses difficultés dans le jeu aussi.
Oui, mais il est toujours là. C'est lui, la voix de l'équipe.
Et bon, on va suivre tout ça ce week-end. On en reparlera sans doute dans le Café des Sports demain. Parce que oui, ça y est, elle est de retour. Elle prend l'avion et tout. Boum, boum. Et tac, demain. Et par les Brésiliens et tout. Bref, on lui souhaite un bon retour à la dame. Vous serez là, bien sûr, pour ses joutes annoncées. Ça va être passionnant ce Café des Sports. Avec le Réfé, avec Xavier Barret, avec Rémy Ngono. Merci, monsieur Brockway, monsieur Salerno, messieurs Finzel, messieurs Guérin. À très, très bientôt. Bonne fin de journée.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris. La bande.